Donc, je disais bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être là pour ce deuxième volet des leçons que Yeni Wallenstein nous fait le plaisir de donner à Paris en ce mois de mars. Donc, je vous rappelle qu'il y a trois leçons prévues. Donc, la première a eu lieu la semaine dernière, aujourd'hui, et puis lundi prochain à la même heure, même endroit, nous aurons donc la dernière de ces trois leçons. Donc j'ai présenté Yeni la semaine dernière, donc vous la connaissez maintenant et vous connaissez son travail. Je vais donc immédiatement lui passer la parole, puisqu'après tout, c'est elle que nous venons écouter. C'est à toi, Yeni.
Merci beaucoup, Vinciane. Et la semaine dernière, j'ai discuté de nombreuses façons possibles de rencontrer le divin dans la société grecque antique. J'ai soutenu que les images et les autels, placés non seulement dans les sanctuaires, mais partout, dans la nature, dans le foyer, fonctionnaient comme des rappels d'existence et de présence possible de Dieu. Et nous avons examiné le cas où la divinité adopte une forme humaine, et j'ai évoqué comment je crois que cette forme anthropomorphe renforce les possibilités d'interaction entre le Dieu et les hommes, car le corps du Dieu devient physiquement accessible. Et dans la conférence d'aujourd'hui, je voudrais que nous gardions ces choses à l'esprit afin de pouvoir poursuivre l'examen de la rencontre entre le Dieu et les hommes, en focalisant cette fois plus sur les statues. Je reviendrai sur le corps sculpté de Dieu, mais cette fois pour le mettre en contact non seulement avec des adorants vivants, mais aussi avec des autres sortes de corps et d'objets. Et notre lieu principal sera le sanctuaire, car si cette rencontre était possible partout, comme je l'ai souligné dans la conférence précédente, les chances de rencontrer le divin étaient certainement accrues dans l'espace sacré à l'intérieur du sanctuaire. Et cela peut sembler évident, mais je pense que ça vaut la peine d'examiner pourquoi c'était le cas. Et nous commencerons par une excursion dans l'espace sacré avec un témoignage oculaire comme point de départ. Lorsque l'écrivain, voyageur, Pausanias, visita l'acropole athénienne et ses nombreux sanctuaires, 2e siècle de notre ère, il se trouva entouré d'images de Dieu, de leurs symboles et de leurs mythes. Donc, imaginons-nous un instant que nous nous promenons avec lui. Déjà, en montant vers la citadelle, on voit tout de suite une tête dorée de méduse sur un pot de chèvre, donc une égide, placée sur ce mur sud de l'acropole. Et donc, tout de suite, il n'y a aucun doute sur la divinité principale de cette acropole. L'égide, évidemment, faisait partie de l'armure de la déesse Athéna, et peut-être son attribut le plus célèbre. Dès l'entrée, nous rencontrons des images d'Hermès, Propylien et des Grâces ou Nymphes. Dans une salle du côté nord-ouest des Propylées, cette entrée monumentale, on admire des peintures représentant des scènes de la guerre de Troie, ses débuts, ses suites, ainsi que les exploits de Persée, le héros qui a coupé la tête de la méduse. Toujours à l'entrée, mais du côté intérieur, nous nous tenons devant les statues des divinités guérisseuses, Hygie, donc la santé, fille d'Asclépios, et d'Athéna Hygieia, Athéna de la santé. À droite, nous voyons un cheval de Troie en bronze, assez grande. Là, j'ai juste illustré avec un autre cheval, pour un peu mettre l'ambiance. Le cheval de l'acropole était assez grand pour que la tête des guerriers grecs qui sortaient de son ventre était de grandeur nature. Au voisinage du cheval, on reconnaît Athéna frappant Marsyas, le satyre malchanceux qui osa ramasser et jouer d'un instrument dont la déesse s'était débarrassée, et à côté de ce groupe, Thésée combattant le Minotaure. Puis Héraclès étranglant le serpent qu'il avait attaqué dans son berceau sur l'ordre d'Héra, et Athéna naissant de la tête de Zeus. Dominant tout cela sur le fronton du Parthénon, nous assistons à une lutte intense entre Athéna et Poséidon, à propos de la protection d'Athènes. On voit la déesse, on voit la terre, la déesse Gaïa, sortant du rocher. Là, j'ai illustré avec une vase, mais on s'imagine qu'en fait, cette statue sur l'Acropole était placée sur le rocher même, sans base, pour que justement elle sorte du rocher pour implorer Zeus de faire pleuvoir sur elle. Puis encore, on continue, une autre représentation d'Athéna et Poséidon qui se disputent. Cette fois, Athéna affiche un plant d'olivier et Poséidon une vague. On voit des statues de Zeus, un Apollon qu'on appelle le dieu Sauterelle, puisqu'il a chassé ses insectes d'Athènes, et impossible à manquer, la majestueuse Athéna en bronze réalisée par Phidias, haute de moins de 9 mètres. Et alors, ceci, ce n'est qu'une sélection parmi les monuments ornant l'Acropole. Je pourrais continuer très longtemps ce récit de Pausanias, de ce qu'il a vu, et je n'ai même pas laissé Pausanias entrer dans le temple pour parler de ce qu'il y avait dedans. Certainement des autres statues de dieux, Athéna, Artémis, etc. Et encore, je n'ai même pas ajouté les statues d'humains qui peuplaient aussi l'espace sacré de l'Acropole. À tout ce que je viens de mentionner, il faut ajouter des autres images, des prêtres, autres fonctionnaires de culte, ainsi que des humains au fil du temps. En effet, les statues portraits des mortels sont devenues plus fréquentes, même dans les sanctuaires, que les statues de dieux. Revenons à l'Acropole. À côté des peintures mythologiques de l'aile nord du bâtiment d'entrée, figurait également le symbole de l'enfant terrible de la fin du 5e siècle, Alcibiade, une lionne en bronze, était le symbole de la courtisane Léaïna, son nom signifie donc lionne, et éparpillée sur la falaise se trouvait une multitude de statues de généraux, d'athlètes, de poètes, filles aristocratiques. Le long du côté sud de l'Acropole et du Parthénon se trouvait même un sombre rappel des anciens champs de bataille. Ici ont été placées des statues en bronze d'ennemis luttant contre les Grecs dans des batailles humaines et divines, les dieux contre les géants, et les Athéniens contre les Amazones et les Perses, les Grecs de Pergame contre les Gaulois. Au total, l'Acropole offrait un palimpseste d'histoire et de personnages donnant aux visiteurs la chance de parcourir littéralement l'histoire et la société athénienne en compagnie des vivants et des morts, des mortels et d'immortels. Mais on peut dire que l'Acropole athénienne n'est pas un sanctuaire typique. C'est plutôt une collection déjà de sanctuaires et de sanctuaires riches en plus. Et c'est certainement vrai. Certains lieux de culte étaient si discrets qu'on pouvait entrer sans se rendre compte. La plupart des sanctuaires étaient probablement dépourvus de murs ou de bornes, comme l'a récemment montré notre collègue Gunnel Ekroth. Lorsque Socrate et son ami Phèdre se promènent le long de la rivière Ilissos, ils passent devant un hôtel de Borée, le vent du Nord, que Phèdre n'a jamais remarqué auparavant. Et quand ils finissent par arriver dans un bel endroit près d'une source, Socrate dit que cela semble être consacré aux nymphes et à Hylos, le dieu fleuve, à en juger par les dédicaces des figures et des statues. Peut-être pouvons-nous imaginer des versions tridimensionnelles de ce relief votif, dédié justement à Hermès, les nymphes et à Hylos. Ce dernier ici, représenté comme sous la forme d'un taureau à tête humaine, en parlant d'anthropomorphisme et zoomorphisme combiné. Donc, en fait, même si vous tombiez sur un sanctuaire plus ou moins par hasard, ce sanctuaire aurait été reconnaissable aux mêmes choses trouvées dans le riche sanctuaire d'Athéna Polias d'Athènes, bien qu'à une échelle plus modeste, à travers les images de Dieu et leurs symboles, comme à travers leurs plantes sacrées, leurs autels, leurs offrandes. Mais en quoi alors ces lieux sacrés augmentent-ils les chances de rencontrer le divin? Le récit de Pausanias montre bien sûr comment un visiteur marchait littéralement parmi les dieux sur l'Acropole, et comme le sentait et le voyait Socrate sur le pente de l'Ilissos. Les deux textes qu'on a lus montrent, je pense, comment les sanctuaires, petits ou grands, ont donné des récits de leur dieu propriétaire à travers ces symboles et ces images de toutes sortes, créant ainsi des rappels constants de pouvoir et fonctions spécifiques de la divinité en question. Mais j'ai déjà souligné que ces images de Dieu se trouvaient en fait partout. Donc pourquoi leur qualité, l'effet qu'elles provoquaient, serait-il différent dans le sanctuaire? Et de plus, il existait certainement un certain tourisme sur le site sacré, lequel pouvait avoir une sorte de fonction muséale où un visiteur regardait plutôt justement les statues de Dieu et ne pas les dieux. Je pense que la réponse réside dans le contexte du sanctuaire lui-même et dans la raison pour laquelle chacune s'aventure à l'intérieur d'un terrain sacré. Et dans une perspective générale, cela influence fortement la façon dont nous regardons et comprenons les images. Tout d'abord, nous devons tenir compte du fait qu'en raison du cadre du sanctuaire, tous ces objets dans l'ensemble permettent au culte actif et continu d'une divinité de prendre une forme matérielle, puisqu'il s'agit en fait d'offrandes. Ce n'est pas des objets quelconques. Les mêmes objets qui racontaient le récit de Dieu, lorsqu'ils sont vus spécifiquement comme des offrandes, fournissent également le récit des adorateurs et leur échange continue avec les dieux, tout en étant dans un sanctuaire accompagné de beuglements de victimes sacrificielles, l'odeur de sacrifice, de l'incens pendant une expérience multisensorielle. Et descendons un instant du haut de l'acropole et prenons quelques exemples de ce double récit de Dieu et des adorateurs de quelques sanctuaires qui se trouvent sur les pentes et de l'Acropole et dans le reste de l'Attique. Ils sont de nombreuses preuves de la façon dont le caractère de Dieu et de son culte devenait évident au travers les dédicaces, en parallèle avec ces histoires qui créent le récit des fidèles. L'exemple le plus évident est peut-être les cas des divinités héros et guérisseuses. En entrant dans les sanctuaires du dieu Asclépios et du héros Aminos à Athènes, un visiteur se tenait tout de suite devant des membres du corps sculpté, de représentation de la partie du corps malade ou guérie. Parfois, il montrait même le mal, le problème, comme dans ce relief où une personne porte l'image d'une veine variqueuse. Et notons aussi qu'à l'arrière-plan, il y a une autre paire de pieds votifs. Je n'ai pas changé. Voilà, il est magnifique, je trouve. Vous voyez les autres pieds ici, les autres votifs. Donc, à travers les jambes et les pieds, et bien d'autres parties du corps, les compétences de ce dieu deviennent évidentes. Même les actes et les possibilités de guérison peuvent en fait être transcrits sous forme matérielle. Dans ce célèbre relief du sanctuaire d'une autre divinité guérisseuse en Attique, Amphiaraos, nous voyons les différentes étapes et perceptions du processus de guérison. L'arrivée, le guérison, le remerciement. Et Folket van Straten, par exemple, il a fait l'interprétation peut-être classique de ce relief. On voit premièrement ce que le malade, qui s'appelle Alkinos, on le sait, a vécu lorsqu'il a dormi dans le sanctuaire pour être guéri. Le dieu est venu et lui a touché son épaule blessée. Et en second lieu, on voit ce que les autres fidèles ont vu, le dieu apparaissant sous la forme d'un serpent, se glissant sur l'épaule. Et après, on voit aussi le résultat, Archinos guéri, il a placé un relief votif, tout comme le relief dont on parle, dans le sanctuaire de la divinité. Le culte et la puissance du Dieu, je pense, n'auraient pas pu être manifestés plus clairement. On peut prendre plusieurs exemples. Je veux juste aussi mentionner le sanctuaire de la déesse Nymphe, sur le versant sud de l'acropole. Un autre exemple où les offrandes présentent la fonction de la divinité et illustrent simultanément le rituel en cours. Le nom de la déesse, Nymphe, vous en avez peut-être parlé dans les cours de Madame Perrine Delforche, et son nom dessine à la fois l'être divin, la nymphe, et la jeune femme sur le point de se marier ou récemment mariée. Les trouvailles de son sanctuaire consistent en un type spécifique de récipient, les lotrophores, destiné à transporter l'eau pour le bain rituel précédant le mariage, et ces vases sont décorés de scènes nuptiales, incluant parfois même le récipient lui-même, le lotrophore, comme autoréférence, comme nous l'avons vu dans le cas de Archinos et l'offrande de la jambe de la veine Varicos, Lysimachidis est le nom de ce dédicant. Donc, quiconque qui enterrait dans l'un ou l'autre de ces sanctuaires aurait ainsi progressé à travers celui-ci en percevant à la fois l'expertise et le pouvoir divin et le culte humain continu. Et ça va avec la deuxième raison d'une possibilité accrue de rencontrer le divin dans le sanctuaire, ce dont nous avons commencé à discuter lundi dernier, la statue de culte elle-même. D'abord, il faut peut-être préciser que tous les sanctuaires n'ont peut-être pas eu une image de culte, et de plus que toutes les images de culte n'ont pas reçu de visiteurs. Je cite par exemple l'exemple d'Ilithi, dans la ville d'Hermione, Hermione. Mais si nous nous concentrons maintenant sur le sanctuaire qui en effet abritait des images de culte et permettait aux visiteurs d'entrer dans leur temple, je pense que nous pouvons conclure que les fidèles se sont aventurés à l'intérieur dans le but de voir l'image de Dieu. Et dans la discussion lundi dernier sur l'Épiphanie, j'ai suggéré avec des autres collègues que de se tenir devant une statue de culte, c'est-à-dire une image représentant un dieu auquel on rendait un culte, offrait une possibilité de rencontrer le divin. Et la visualisation d'une image physique de la divinité avait le potentiel d'être, selon le mot de Verity Platt, un point culminant épiphanique, car entrer dans la demeure de la divinité et rencontrer son regard était souvent l'aboutissement d'un long processus rituel pendant lequel avait été créé un état d'esprit permettant à cette rencontre d'avoir lieu. On entrait, si nécessaire, dans un sanctuaire après des préparatifs, dans ce but précis, et comme avoir mis de certains vêtements, peut-être de s'être abstenu de certains aliments, de relations sexuelles, peut-être après une promenade processionnelle dans sa ville, ou même après un long voyage. Une fois à l'intérieur du sanctuaire, la promenade à travers les récits des dieux et des adorateurs, matérialisée, est exprimée à travers les dons offerts à la déité, comme preuve de sa puissance divine et le culte humain. Tout ça, dont nous venons de parler, prépare à son tour la visite à l'intérieur du temple. Donc, on parle d'une espèce de vision centrée sur la statue de culte qui est impossible hors du cadre du sanctuaire et qui était évidemment un élément important dans la création de la possibilité accrue d'une rencontre entre adorateurs vivants et le dieu actuel. Et ainsi, debout, devant la statue cultuelle, nous nous sommes revenus là où nous étions arrêtés lundi dernier, à une divinité rendue accessible à travers un corps, dans ce cas, une statue. Et je souhaite continuer là où je me suis arrêtée pour examiner les autres conséquences de cette accessibilité. Si on reprend la question de la prêtresse Alexandra. Et il y a certainement plusieurs niveaux dans cette inscription. Pourquoi a-t-elle posé cette question en premier lieu? Certaines collègues ont soutenu qu'elle voulait que son statut spécifique, en tant qu'honorée par l'attention de Dieu, que ce statut soit officiellement documenté. Mais on pourrait aussi y voir peut-être une angoisse. Pourquoi toute cette épiphanie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien? Parce que rencontrer un Dieu, surtout en chair et en os, n'était pas nécessairement une expérience positive. Selon Héra, dans l'Iliade, citation très connue, on soutient mal la vue de Dieu qui se montre en pleine lumière. Et quand il se montre, energeis, on avait touché à ça la semaine dernière aussi. Donc elle veut prévenir Achille que des dieux seront présents sur le champ de bataille et il doit être au courant. Et ce danger dont elle semble parler est généralement interprété comme le résultat de quelque chose comme une classe spéciale, un éblouissement que le dieu omette, qui peut être insupportable pour les hommes et les femmes mortels. Et en parcourant les sources, une rencontre directe avec le divin pouvait provoquer un choc violent, presque une pétrification, quelque chose souvent décrit par des termes comme je le suis mis ici, thambos, sarveo, kataplexis, et des verbes pareils. Et la littérature, principalement parce que ici on a moins de traces dans les sources épigraphiques, et littérature en effet en est riche en exemples. Et on peut discuter quelques très célèbres, évidemment, le rencontre du prince troyen Anchis dans l'hymne homérique Aphrodite, Hélène dans l'Iliade, et ensuite, en effet, une source épigraphique, la rencontre avec les muses du poète Achilloque. Après, on a évidemment peut-être la plus connue, Sémélée, mère de Dionysos. Dans l'hymne d'Aphrodite, Anchis, bien que méfiant, est amené par la déesse à faire l'amour avec elle en croyant que c'est une jeune fille mortelle. Lorsqu'il se réveille d'un sommeil profond, Aphrodite se montre tout d'un coup comme la déesse qu'elle est, d'une beauté rayonnante. Sa tête atteint tout de suite le toit depuis qu'il a repris ses dimensions divines. Et la réaction d'Anchis est la peur. Et il prie la déesse de ne pas le rendre faible ou impuissant, car il ne connaît aucun homme. Et il ne voit point fleurir sa vie, l'homme qui dort auprès des déesses immortelles. Hélène, alors qu'elle était enlevée des murs de Troie et encouragée par une vieille servante à rejoindre Paris, elle est également frappée d'étonnement lorsqu'elle voit la beauté de la déesse et comprend qui elle est. Et mon troisième exemple, c'est donc... C'est moins connu peut-être, ce n'est pas une source de l'époque d'Archiloque lui-même, c'est une inscription du IIIe siècle de notre ère, mais qui raconte l'histoire comment il a rencontré le neuf muses déguisé en vieille femme. Elle propose d'acheter sa vache pour un bon prix, puis disparaît soudainement avec l'animal, laissant une lyre au pied du poète. Et il est tellement émerveillé par la rencontre qu'il lui faut du temps de reprendre ses esprits. Et ces trois exemples concernent tous des rencontres avec des dieux en personne, pour ainsi dire, mais les dieux se cachent tous sous un déguisement, une jeune fille, des vieilles femmes. Parce que si le corps anthropomorphe est en premier lieu efficace pour inviter les humains à interagir même intimement avec les dieux, à travers le désir, par exemple, à travers le désir du corps féminin, et, ou encore à travers la pitié pour le corps vieilli, comme lorsque Jason aide une vieille femme à traverser une rivière, en réalité Héra déguisée. Si ce corps anthropomorphe est en premier lieu donc un lien d'interaction, il semble aussi qu'un corps non seulement rend Dieu accessible, mais qu'il constitue aussi souvent une nécessité. Dans les exemples que je viens de montrer, les dieux essaient en effet de protéger les humains qu'ils rencontrent, puisque dans ces cas, les dieux sont bien sûr bien disposés envers eux, et l'épiphanie se fait par leur propre volonté et initiative. Car on regarde d'autres exemples, il apparaît que de voir un dieu sans un déguisement est dangereux. S'émêler et brûler à mort, ou meurt de peur, lorsqu'elle voit, à sa propre demande, Zeus sous sa forme réelle. Et peut-être, pour ne pas répéter la même erreur, lorsque Héraclès demande la même chose, à voir son père, Zeus se couvre d'une toison animale. Si donc les immortels souhaitent interagir de près avec les mortels, ils ont besoin d'une sorte de coque afin de créer une zone de sécurité qui leur permettent les rencontres de proximité. J'écris cas contact ici, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui. Peut-être qu'on peut utiliser cette expression. Et chez Hérodote, Zeus se cache donc sur ce toison d'animal, mais la solution évidente qui vient à l'esprit en est bien sûr la statue, un récipient pour contenir non seulement dans le sens d'enclore, mais aussi dans celui de restreindre, presque adoucir la véritable forme du dieu. Peut-être une citation de l'interprète de rêve, Artemidore, nous donne un écho de quelque sorte de cette coque. Nous nous souvenons peut-être que Artemidore considérait que de voir un dieu où sa statue revient à la même chose. Mais il constate toutefois que de voir le dieu eux-mêmes signifie que les biens et les maux arriveront plus vite que si l'on voit leur statue. Est-ce qu'ils devront, ces maux et ces biens, passer par cette zone de sécurité qui constitue la statue et seront ainsi ralentis? En effet, je pense qu'on pourrait dire que toutes les formes qui prend le divin pour se manifester aux mortels sont en réalité des coques de sécurité, sorte de membrane. Simplement encore, parmi toutes ces formes, la forme anthropomorphe est la coquille la plus compatible, qu'elle soit sous une forme de suprahumain, statue ou même sous la forme plus fuyante d'un phasma, d'une image fantomatique. Non seulement le corps divin anthropomorphe est-il pleinement compatible, comme on l'a vu avec les activités humaines, il est même suffisamment pour avoir une progéniture, aînée après la rencontre d'Anchise et d'Aphrodite, et s'est mêlée et tombée enceinte avant la suppression fatale de la coque protectrice de Zeus. Toutefois, il reste des dangers. Et tout comme l'accès du corps divin peut amener les mortels à le maltraiter, et ainsi, le filet anthropomorphique de sécurité peut mal tourner. Si les hommes voient le dieu anthropomorphe contre sa volonté, et même s'il s'échappe à l'effroi de la vision d'un dieu, une punition suit rapidement et elle est souvent très cruelle. Actéon, le compagnon de chasse d'Artémis, qui vit la déesse nue, fut mis en pièces par ses propres chiens. Tirésias, qui lui aussi vit une déesse nue, Athéna cette fois, devient aveugle. Et la prêtresse Iodamée fut littéralement pétrifiée quand elle entra de nuit dans le temple d'Athéna et contempla la tête de Méduse ornant la tunique de la déesse. Dans ces cas-là, la forme anthropomorphe même qui a permis l'interaction entre mortel et immortel constitue la raison même du désastre. Et là, je prends l'occasion de me corriger Et j'avais dit la semaine dernière que les rédacteurs de l'œuvre formidable Les Dieux d'Homère II, Anthropomorphisme, étaient. Je dois me corriger. Les rédacteurs sont en effet Renaud Gagné et Miguel Herrero. Voilà. Excusez-moi pour cette erreur. Et oui, encore le corps anthropomorphe. Je pense qu'il porte aussi un deuxième danger en lui. Un corps visible, accessible et de forme humaine, ouvre la porte à la comparaison. Il peut s'agir simplement d'un compliment. Lorsqu'Ulysse rencontre Nausicaa, il est émerveillé de sa beauté et il se demande si elle est en fait en présence d'Artémis. Mais la comparaison peut aussi devenir incontrôlable. Le corps humain et ses capacités ou limites se trouvent au cœur de récits où la comparaison tourne mal à cause de la vantardise de mortels ou de la jalousie de Dieu éveillée par la beauté d'un humain, sa fertilité, son habileté au tissage ou au jeu d'un instrument musical. Et de manière très intéressante, le châtiment qu'entraîne une comparaison plutôt favorable à un humain est très souvent la transformation ou la mutilation de son corps. Dans la version qui donne au vide du mythe de la jeune fille qui est Arachné, qui défie Athéna, la déesse de l'artisanat, à propos de son habileté dans l'art du tissage, elle est métamorphosée en araignée. Niobé, se vantant de son statut, de sa beauté et de sa nombreuse progéniture, voit ses enfants être tués un par un et elle est elle-même transformée en roc. Dans la version évripidienne du sort d'Actéon, le chasseur, il est puni parce qu'il se vante d'être meilleur chasseur qu'Artémis. Et par conséquent, il est transformé en biche et attaqué par sa propre meute de chiens. Le satyre Marsyas, certes pas un humain, s'étant mesuré à Apollon lors d'un concours musical, fut privé de son aspect corporel, il fut écorché. Toute, comme la religion a été intégrée dans la société grecque, ne constituait pas une sphère séparée, les immortels et les mortels se mêlent, non seulement dans ou à travers les actes rituels, mais en fait dans l'existence de tous les jours. Et dans cet échange constant, le corps humain joue un rôle clé, les dieux prenant leur forme et les humains réagissant avec leur propre corps. La forme humaine amène donc avec elle des possibilités infinies de rencontres directes avec les dieux, parfois bénéfiques, parfois dangereuses, mais toujours tentantes. Et en gardant tout ça dans nos têtes, je voudrais maintenant faire une deuxième excursion, cette fois à l'île de Calavrie, dans le golfe Saronique, où l'Institut suédois a longtemps mené des fouilles. C'est en fait le site de première fouille suédoise en Méditerranée, et à travers une brève campagne en 1894. Et l'île actuelle de Poros, c'est Calavrie, il est composé de deux îles, Sferia, où se trouve la ville moderne, et Calavrie, qui est moins habitée, couverte d'arbres. C'est une très très belle île. Et depuis au moins l'époque archaïque, Calavrie était le site d'un important sanctuaire de Poséidon. Il était dirigé par une amphictyonie, tout comme Delphes. Dans le cas de Calavrie, c'est une association de 7 cités voisines. Nous n'avons pas une image très claire des débuts du sanctuaire. Il y a des traces d'activité dans la zone du temple, déjà à l'âge de bronze, mais pas d'une type qui puisse corroborer une continuité du culte dans les périodes historiques ultérieures. Toutefois, il existe certainement une activité cultuelle au début de la période archaïque, au moins à partir du VIe siècle avant notre ère, où les découvertes comprennent des offrandes très typiques, des vases miniatures, des figurines, etc. Les fouilles ont identifié le début d'une phase de monumentalisation, beaucoup d'activités de construction autour de 500 avant notre ère. À cette époque, le sanctuaire est équipé de nouveaux bâtiments d'entrée, un propylon et d'un temple. Ici. Du temple lui-même, il ne reste que des restes architecturaux fragmentaires, vraiment fragmentaires, mais ce reste suggère quand même des dimensions et des styles architecturaux similaires à ceux du temple Tafaya sur l'île voisine d'Égine. Dans l'ensemble, le matériel de Calavry montre les contours d'un sanctuaire assez traditionnel, mais qui est devenu très célèbre, d'abord comme lieu de refuge en général, d'asile, et deuxièmement comme lieu d'asile de l'orateur Démosthène en particulier. Démosthène a fui ses ennemis macédoniens et il a demandé l'asile auprès de Dieu à Calavry, mais lorsqu'il s'est rendu compte que ces derniers ne respecteraient pas le caractère sacré de la protection de Poséidon, il s'est suicidé dans le sanctuaire en 3022 avant notre ère. Et dans ce suite, je vais me concentrer sur une brève période, juste après, une période de la phase hellénistique du sanctuaire. Et il semble que le sanctuaire, c'est une phase de prospérité, et en plus, Calavry est devenue une cité-état à part entière, la ville voisine de Trézène ayant perdu son influence sur Calavry. Ce genre de sanctuaire, notamment géré par une organisation de plusieurs villes, aurait dû générer un important matériel épigraphique. Mais en fait, seulement 18 inscriptions ont été retrouvées de toutes les périodes. Et sur ces 18, 8, fait intéressant, appartiennent à la même famille. Et j'ai étudié et publié ce matériel ou trois inscriptions de ce dossier avec le professeur Nicolaos Papazarkadas. Donc, découle de notre travail commun, dans une grande partie. Et la famille est visible dans divers documents, dotations, inscriptions honorifiques, mais surtout à travers des dons aux dieux, les dédicaces. Donc, inclus dans ce dossier, nous trouvons 10 membres appartenant à 5 générations de la famille et 2 dieux destinataires, une fois Aphrodite et dans tous les autres cas, le propriétaire du sanctuaire, Poséidon. Les offrandes sont toutes des statues portraits des membres de la famille et au moins 3, probablement 4, de ces dédicaces sont des monuments multigénérationnels présentant des hommes et des femmes de la famille sur 2 ou 3 générations. Et les portraits ont malheureusement, comme c'est souvent le cas, ils sont disparus depuis longtemps. Ce que nous avons, ce sont les bases des statues racontant ce qu'ils portaient autrefois. Et d'après les traces sur les bases, nous savons qu'au moins 2 étaient des statues de bronze et plus grands qu'une grandeur naturelle. Il est à noter qu'aucune occasion ou raison particulière, comme prêtrise, magistrature, etc., n'est mentionnée dans les dédicaces. Seules les relations entre les humains et entre les humains et les dieux sont exprimées. Aucun nom ethnique n'est mentionné. On suppose que cela signifie que la famille était d'une origine locale. Et voyons maintenant comment ces statues ont été placées dans le sanctuaire. Un visiteur de ce sanctuaire de Poséidon, il aurait rencontré le premier monument juste devant l'entrée, ici. Et c'était fixé sur un autre piédestal, une grande statue de bronze, coûteuse, tape à l'œil peut-être, d'une certaine Sosistratos. Et fièrement accompagnée d'un épigramme, d'un certain raffinement. Une seconde statue du même homme, légèrement plus petite, était visible à quelques mètres à l'ouest. Et là, je ne sais pas du tout. J'ai mis en anglais. Excusez-moi. Et ces statues en bronze et d'autres similaires d'hommes et des femmes, par exemple, probablement, et ça c'est un texte que certains ici connaissent bien, et des autres statues en bronze, plusieurs statues, on ne sait pas exactement combien, mais de cette même famille, flanquaient probablement aussi la route qui menait vers le sanctuaire. On les voit, et ils sont mis sur un exèdre, donc une basse de statues en semi-cercle. Et en effet, on a trouvé des restes d'une exèdre juste dans cet endroit, pas in situ, mais les archéologues considèrent que les pierres n'ont pas été bougées trop loin de cet endroit. Et après, on continue, un visiteur imaginaire, je vous rappelle, on est donc dans cet endroit où, en effet, on a l'entrée, mais aussi ce bâtiment F qui a été identifié comme le Boulevterion, où le conseil se rencontrait. Avec l'aide d'une autre inscription, on sait qu'il y avait encore des statues de même famille dans cet endroit pour Agasicles et Nicagora. Et peut-être qu'un visiteur imaginaire avait même demandé pourquoi il y avait des autels juste auprès de ce couple de statues. Et si ce visiteur était observateur, il s'est aussi rendu compte que c'était ce même couple qui avait dédié à Poséidon le statut de leur petit-fils, à Agasicles, qui aussi était honoré juste dans cet endroit par la police de Calabrie. Cet Agasicles, le jeune, lui-même, il a également montré une gratitude appropriée envers sa famille. À son tour, il a honoré son propre père, Sosiphanes, avec l'aide de sa grand-mère, Nicagora, encore, laquelle, on croit aussi, a présenté une statue de sa fille, mais à Aphrodite cette fois, et peut-être pas dans le sanctuaire de Poséidon. Donc, déjà avant de franchir la porte d'entrée vers la zone principale du sanctuaire, un visiteur aurait compris qu'il ne s'agissait pas d'une famille calavrienne ordinaire. Et alors, quand il ou elle entrait finalement, solennellement peut-être dans le temple de Dieu, et le visiteur aurait non seulement vu la statue de culte Poséidon, mais il aurait également vu rencontrer la statue de la dame Agasigratis, peut-être soigneusement polie par le surintendant, comme elle exigeait elle-même, dans le temple. Donc je pense que le visiteur, une visiteuse, il aurait à présent été très impressionné, possiblement par la piété de cette famille, et il avait certainement compris la position particulière de la famille, dominant à la fois les environs et l'intérieur de l'espace sacré. Et il avait certainement compris la relation étroite avec les dieux vénérés, et qui s'exprime, à mon avis, ainsi matériellement à travers le placement de monuments pour les individus représentés dans l'entourage des dieux. Mais qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Nous avons beaucoup de chance d'avoir le texte de Pausanias à propos de l'Acropole d'Athènes. Sans tenir compte du fait qu'il a pu mal dater certaines choses, peut-être qu'il a mal compris le sens d'autres, par son récit, nous avons quand même une idée de ce qui a dû être un paysage fantastique où se mêlaient figures humaines et divines. Et d'ailleurs, nous avons certaines choses pour soutenir son récit, comme on a la base de la statue d'Athéna Hygieia, par exemple, on a la base du grand cheval de Troie, on a l'inscription et des traces de cette figure de Gaïa dont j'ai parlé, etc. Et bien sûr, les grands bâtiments qui peuvent donc corroborer le récit de Pausanias. À Calavry, ça, ce n'est pas du tout le cas. Curieusement, je pense, ce qui a survécu des images à grande échelle dont nous disposons, ce sont donc les bases et les inscriptions des monuments d'hommes et de femmes mortelles ordinaires, mais riches et puissantes. Mais à quel point sont-ils en fait des humains ordinaires? Reprenons leur localisation dans le sanctuaire. Le fait que Agathigratis, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, ait fait placer son portrait à l'intérieur du temple est remarquable. C'était un honneur considérable. Par exemple, la seule statue-portrait que Pausanias dit qu'il a vue dans le Parthénon était celle de l'empereur Hadrien. Le général victorieux de Salamine, Thémistocle, il avait une statue de lui-même dans un temple fondé de lui-même, près de sa propre maison. Des autres exemples, ils sont pas beaucoup. Plutôt, on trouve, par exemple, au IVe siècle de notre ère, une statue d'Ada, la reine d'Halicarnasse, installée dans la cella du temple d'Athéna à Priénée. Plus tard, au Ier siècle de notre ère, l'Evergète Artemidore de Cnidos, en Asie mineure, il était honoré par une statue en or dans le temple d'Artemis Iakintotrophos et Epiphanes. Et souvent, comme le note John Moore, cet honneur est rendu à des personnes avec un lien particulier avec le culte. Notons peut-être que Thémistocle, il avait même fondé le temple où il avait sa statue, même si petit. Et on peut noter que dans la plupart des cas connus des statues placées dans la cella du temple, les personnes nous sont encore bien connues aujourd'hui. Ada, Hadrien, et cet Artemidore de Cnide qui était en fait un proche, il était dans le cercle de Jules César. Notre famille calarienne, pas du tout. Rien en Plutarque, rien en Pausanias, aucune fonction sacerdotale n'est mentionnée. Et en plus, selon Plutarque, la prêtresse de Poséidon, c'est une prêtresse, c'est une jeune fille, une jeune fille spécifiquement pas mariée. Quand elle devait se marier, elle devait quitter la prêtrise. Donc, ce n'est clairement pas le cas avec Agathigratis. Et cette famille n'est pas connue par d'autres documents que ceux de Calavry. Et parfois, une statue-portrait placée dans un temple avait même des connotations cultuelles, mais cela ne semble pas avoir été le cas non plus ici. Et la statue n'est pas dénommée Agalma, mot typique pour un statut de culte, même si pas le seul, ni n'est utilisé le terme Sinaos, qui partage le temple, qui aurait peut-être révélé une intention cultuelle. Et pourtant, des liens avec les dieux sont là. Et parce que si on regarde de plus près, il n'y a probablement pas que Agathigratis qui occupe une place d'honneur. Retournons au plan. Au moins trois statues-portraits étaient placées devant l'entrée du sanctuaire, on l'a dit. Celle de Sosistratos, Agathicles le Jeune et Sosiphane, presque comme si elles contrôlaient les individus qui entraient. Mais pourquoi en dehors du sanctuaire propre? Il convient, je pense, également de noter que Zetson, bien qu'en face donc du propylon du Téménos, se trouve également en face de ce qu'on a interprété comme le Boulevterion, la maison du conseil. Et regardons donc cet endroit de plus près. Et je pense qu'on peut dire donc que cet endroit, on peut le voir comme devant le Boulevterion, aussi bien que devant l'entrée. Et ça, cela signifie que nous devrions donc ajouter les portraits de Nicagora et Agasiclès, mentionnés dans la dotation. Encore. Voilà, et c'est là leur statue qui se trouve près du Boulevterion. Et j'avais parlé de l'Excèdre, qui était probablement placé dans cet endroit aussi. Donc on a vraiment une concentration familiale devant le Boulevterion, en fait. Dans les mêmes documents de dotation, on peut voir qu'il y a un dieu autre de Poséidon qui reçoit un sacrifice à côté ou avec lui, Zeus Zoter. Il y a donc une forte possibilité que ce dieu ait également eu un sanctuaire à Calavry. Et Nicolas Papasagradas et moi, nous avons suggéré que son culte était de type civique. Depuis au moins la période classique, les centres de culte de Zeus Zoter étaient souvent situés dans l'Agora, en qualité de dieu civique. Par exemple, à Trézène, donc une ville avec des liens très forts avec Calavry. Trézène offrait un culte à Zeus Zoter dans l'Agora. Autre exemple, depuis au moins le 4e siècle avant notre ère, une statue de Zeus Zoter se trouvait dans l'Agora d'Athènes. Et à l'époque hellénistique, le même dieu avait des liens particulièrement étroits avec la boulet, le conseil. L'épiclès Sauter, c'est bien sûr très fréquente, disons large, et des cultes à ce dieu pouvaient être rendus pour de multiples raisons. Mais pour le contexte calaréen, je pense que le caractère civique de Sauter est renforcé par les deux documents de dotation qu'on a vus. Et comme il mentionne alors des sacrifices à Poséidon et à Zeus Zoter, où on remarque que les surintendants, les épimélétaï, en charge des sacrifices, soient explicitement chargés de prêter serment de ne pas détourner le fonds uniquement à Zeus Zoter. Poséidon, il n'est pas là-dedans. Et les épimélétaï, c'était des magistrats civiques, nommés par décret des Calavriens pour gérer ces fonds de dotation. Et il est donc probable que le choix de Zeus Zoter comme dieu garantissant le serment de ses fonctionnaires ait été dicté par son importance en tant que divinité civique. En publiant trois de ces inscriptions en question, nous avons été frappés par l'onomastique de notre famille éminente. Leur nom s'attache à des connotations de sécurité, de conservation, exprimé linguistiquement en vertu des variantes de la racine saut, sauci, voire saute, qui, à notre avis, donc, semble les relier à Zeus Zoter. Que leur monument, dressé devant le Boulevterion, très probablement dans l'Agora, on ne le sait pas encore, se trouvait donc également à proximité d'un sanctuaire et de la statue de Zeus Zoter, apparaît cohérent. Dans ce contexte. À travers leurs statues portraits et autres documents inscrits, placés publiquement, la famille exprime sa position particulière. Ils sont assez riches et puissants pour financer des monuments splendides et des dotations, mais par le placement de leurs statues portraits, ils développent davantage cette position particulière en se tenant littéralement près de Dieu. Ils s'indiquent qu'ils sont théophiles, peut-être, cher au dieu. Nous avons une statue placée dans le temple de Poséidon, et je crois donc personnellement qu'il y avait plusieurs placées comme cas contact avec le divin, et des statues qui se tenaient sinon dans un temple, alors dans un sanctuaire de Zeus Zoter, peut-être même près de son autel. On se souvient du passage intéressant où des autels sont placés devant les statues de Nicagora et d'Agasiclès. Iulia Petridu, elle a souligné que les humains qui sont des théophiles sont capables de parler aux dieux et de les rencontrer sans déguisement. Mais je pense qu'il est important de souligner aussi que cette membrane de sécurité constitué par un corps de quelque sorte adapté par le divin est toujours nécessaire. Pour cela, notre famille calabrienne a pris soin de non seulement célébrer le culte de Dieu comme des êtres humains s'approchant d'une statue de culte avec sa possibilité de lieu d'épiphanie, mais aussi comme des statues d'êtres humains fermement plantées dans l'espace du divin. Et c'est un stratagème peut-être intéressant. Non seulement une statue peut être en proximité immédiate d'un Dieu sans danger, mais elle peut le faire en permanence, car elle est plus forte qu'un corps humain. Le bronze et le marbre n'ont pas besoin de repos. On peut estimer, d'après les empreintes laissées sur la base, qu'au moins deux statues étaient plus grandes que nature, tout comme les dieux. De plus, une statue n'a pas besoin de manger, tout comme les dieux. Une statue brille, comme le corps de Dieu, surtout si elle a été nettoyée et couronnée, comme la statue d'Agasigratis. À travers les statues-portraits de ses membres, notre famille a en effet fait de leur corps humain leur sous-corps semblable au sur-corps de Dieu et placé dans la maison ou l'espace du Dieu en permanence. Les conséquences sont aussi intéressantes. Bien sûr, un visiteur local du temple aurait su que les statues d'Agasigratis et de ses proches n'étaient que des humains. Mais qu'en est-il du point de vue d'un visiteur de loin? Nous savons par les offrandes que le sanctuaire de Poséidon à Calavrie attirait une foule internationale. Comment aurait-il compris ces statues? J'ai parlé plutôt des récits de Dieu et des hommes présents dans ce sanctuaire, exprimés au moyen des objets du sanctuaire par les offrandes. Il nous reste très peu de tout ça en Calavrie, mais il n'y a pas de doute qu'il y en avait. Évidemment, les portraits de notre famille n'étaient pas seuls, mais ils s'étaient placés dans le récit de Poséidon et probablement des autres dieux, comme Zeus aux terres ou Aphrodite. Ces récits de dieux, on l'a dit, montraient leur fonction et leur pouvoir, et en même temps, et par les mêmes objets, les récits des adorateurs présentaient leur statut et leurs soucis. Avec le temps, certains récits se sont-ils confondus? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un étranger est entré dans le temple, il a vu Agasigratis, peut-être plusieurs générations après la mise en place de la statue, quand l'inscription n'est plus lisible? Le récit d'un beau membre d'une famille d'êtres humains riche et puissante serait-il toujours valable? Ou le visiteur regardait-il maintenant Agasigratis pour voir, peut-être qu'il a vu une épouse divine de Poséidon, une déesse locale? Peut-être les offrandes s'étaient tellement multipliées que désormais les offrandes étaient placées auprès d'Agasigratis aussi, d'abord par manque d'espace, auprès de Poséidon, mais avec le temps, peut-être exprès. Et comment les statues de Nicagora et Agasiclès auraient-elles apparu à un pèlerin, placées près des autels clairement utilisés pour le culte? En tant qu'éternel présence sacerdotale peut-être, près de l'autel, ou en tant que destinataire du culte, une version tridimensionnelle des reliefs fautifs qu'on a vu. Catherine Kiesling a récemment proposé, à propos des périodes archaïques et classiques, que, et je cite, « avant la diffusion de type statuaire propre aux portraits, le plus souvent, les portraits grecs réalisaient des analogies entre le sujet humain et de ses identités héroïques ou divines. » Ça, c'était la citation. Par le placement des statues portraits, un humain représenté par un portrait pouvait être littéralement proche de Dieu, sans danger et sans interruption. Dans une perspective de long terme, faite à dessein ou non, je pense qu'on pourrait suggérer qu'avec le temps, les limites entre Dieu et adorateur pouvaient s'estomper. Il y avait donc des moyens matériaux de brouiller les frontières entre mortels et immortels, toujours par ce pont entre les dieux, entre les deux, entre mortels et immortels, que constitue la forme anthropomorphe. Merci.